Colombe, bonne soirée, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes manager chez Eurexia. On va parler avec vous un nouveau rendez-vous important pour les asset managers et l'écosystème financier, la MiFID 2, la nouvelle directive européenne. C'est le 3 janvier 2018. Certains acteurs sont prêts, d'autres pas forcément encore, ce qui peut paraître étonnant au mois de novembre 2017. Quels sont déjà ceux qui sont concernés par ces règles?
Ceux qui sont concernés donc par ces directives MiFID 2, on a en premier lieu les producteurs d'instruments financiers, c'est-à-dire ceux qui confectionnent ces produits, mais on a également les distributeurs, c'est-à-dire ceux qui sont amenés à commercialiser à des clients finaux ces produits-là.
Alors justement, du côté des producteurs, on voit dans la directive, on évoquait une clientèle cible avec un certain nombre de critères. Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça?
Alors, la notion de clientèle cible, c'est effectivement quelque chose qui est introduit par la directive MiFID 2, qui demande aux producteurs de définir les clients auxquels les produits doivent être adressés. Donc, cette notion de clientèle cible se définit autour de 5 critères. On a d'abord le type d'investisseur auquel le produit doit être adressé. Par type d'investisseur, il faut entendre donc un client pro ou non pro, ou même une contrepartie éligible. On a également les objectifs d'investissement que l'investisseur à qui le produit est commercialisé doit être défini. On a en troisième lieu la compétence et l'expérience financière sur les produits concernés. On a également une notion de risque et de tolérance au risque. Et en dernier lieu, on a la capacité à subir des pertes.
Alors du côté des distributeurs, eux, ils vont avoir un certain nombre de vérifications à faire. Quelles sont-elles?
C'est cela même. Vu que le producteur aura défini la cible à laquelle doit être adressé le produit, le distributeur, lui, il doit être amené donc à profiler ses clients avant de leur conseiller des produits. C'est-à-dire qu'il doit vérifier l'adéquation entre le produit et les besoins de son client. Donc ça impose pour le distributeur d'adresser tout un ensemble de questions à son client avant de lui conseiller tel ou tel produit.
Alors, on sait que dans certains groupes, producteurs et distributeurs, on pourrait dire, ils sont au même étage. Du coup, ça va impliquer de nouveaux sujets de gouvernance.
Exactement. Vu que le producteur devra en amont définir le marché cible auquel s'adressent les distributeurs, il devra communiquer ces éléments-là au distributeur. Ça peut être un distributeur du même groupe que lui, mais ça peut être aussi des distributeurs externes à son groupe. Le distributeur, quant à lui, quand il aura réceptionné ces éléments, il devra bien sûr s'assurer que le client auquel il commercialise les produits sont bien concernés par la cible définie par le producteur. Mais ça impose aussi au distributeur, en aval de cette phase de vente, de pouvoir adresser au producteur un reporting des ventes, effectivement, qui informe le producteur de finalement est-ce que le marché cible tel qu'il avait défini a bien été respecté au moment de la commercialisation du produit. Donc effectivement, ça impose cette gouvernance produit qui implique à la fois le producteur en amont, mais également le distributeur en aval.
Est-ce que pour conséquence, on peut se dire qu'il va falloir repenser finalement les produits, les différents produits?
Repenser les produits, ce serait un peu trop dire. Mais dans tous les cas, ça impose d'être strict dans la manière dont on commercialise les produits. Parce que le distributeur ne pourra plus se permettre de vendre tout produit à tout type de client. Il devra être plus strict dans sa manière donc, de contrôler le profil du client et de savoir que les produits correspondent bien au client. Mais ça peut aussi impliquer finalement pour le distributeur peut-être de se tourner vers d'autres types de producteurs à qui il n'avait pas affaire pour chercher des produits qui sont plus à même de répondre aux besoins de ses clients. Donc c'est là une opportunité pour agrandir l'offre et proposer des produits de différents types de producteurs, effectivement.
Voilà, reste quand même, comme toute directive, une certaine complexité hein, dans l'application, dans sa mise en œuvre pour les uns et les autres, pour tous les acteurs. Est-ce que ça peut générer des opportunités? On peut penser au digital, à d'autres éléments pour justement.
Bien sûr, si, comme vous l'aviez mentionné au début de cet entretien, il y a vraiment beaucoup de difficultés que aussi bien les producteurs que les distributeurs ont dans la mise en application de cette directive, et en particulier de cet aspect sur la gouvernance produit, parce qu'on se demande est-ce qu'il faut traiter le stock? Est-ce que la directive ne concerne que les nouveaux produits commercialisés? Donc tout ça, ce sont les réflexions qui ont lieu en ce moment entre les producteurs et les distributeurs. Mais dans tous les cas, on peut quand même y voir des opportunités. La première opportunité, c'est côté producteur, parce qu'il aura maintenant plus d'informations finalement sur les produits qui auront été commercialisés. Là où aujourd'hui finalement il adresse ses produits aux distributeurs et ceux-ci les distribuent sans qu'il ne sache finalement à quel type de distributeur les produits ont été commercialisés, demain, avec le reporting de vente que les distributeurs lui adresseront, ben, il sera en mesure de vérifier si l'adéquation qu'il avait prévue au départ, elle est bien respectée. Donc ça, c'est vraiment une opportunité pour les producteurs parce qu'ils peuvent en tenir compte pour finalement adapter ou modifier le marché cible qu'ils avaient défini au départ. Mais également, ils peuvent se servir de ces informations-là dans la confection des nouveaux produits. De se dire finalement, tel type de produit peut correspondre à tel type de clientèle ou au contraire de se dire, tel type de clientèle, on n'y avait pas pensé. C'est l'occasion donc de produire des offres et qui leur seront plus adaptées. Pour les distributeurs, également, le fait de se devoir être strict dans l'attribution des produits qu'ils commercialisent aux clients, ça leur impose de mieux connaître le client. Donc forcément, de poser plus de questions qu'ils ne pouvaient poser aujourd'hui. Bien sûr, dans l'intérêt du client, parce que c'est une manière de les protéger en leur vendant des produits qui sont adaptés à leurs besoins. Donc, ce questionnement-là, forcément, amène à une meilleure connaissance du client, donc à renforcer la relation entre le distributeur et le client, et également donc une opportunité pour pouvoir commercialiser d'autres types d'offres auxquelles il n'aurait pas pensé en se bornant à l'offre produit financier. Vous avez évoqué le digital. Effectivement, beaucoup d'acteurs s'y intéressent parce qu'il y a des fintechs sur le marché qui en profitent pour proposer des offres plus robustes que nous pouvons faire aujourd'hui via des robot advisors qui, eux, du coup, doivent être respecter la réglementation. Ils doivent avoir les aspects de questionnement client, d'appétence au risque, de tolérance au risque, pour pouvoir ensuite pouvoir proposer en automatique des produits qui matchent avec... avec ces profils clients-là. Donc, beaucoup d'acteurs se tournent vers des fintechs pour pouvoir proposer des solutions digitales que le client peut même, que le client puisse réaliser en amont d'un entretien client, réaliser toute la phase de profilage, avoir une idée des produits qui peuvent lui être conseillés et ensuite se rendre auprès de son conseiller pour valider ou pas les offres qui auront été poussées par le robot advisor.
Merci Colombe Nzoré d'avoir fait le point avec nous.
Merci.